Et tout cela,
Française, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA espionnait aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf?
La République, c'est moi, c'est moi.
Jean-Pierre Foubert et
Olivier Nothal
vont analyser les résultats de ce premier tour, de ces premiers tours. Régional et départemental étaient au menu du dimanche 20 juin et le seront encore le dimanche prochain, le 27. Bien sûr, ce premier tour a éclairci le paysage. Avec les règles diverses et parfois un peu complexes, ils vont faire le tour des forces en présence pour la lutte finale du deuxième tour. Mais c'est surtout avec plaisir qu'ils accueillent le politologue Emmanuel Négrier, directeur de recherche au CNRS, CEPEL, Centre d'études politiques et sociales de l'Europe latine à Montpellier. Il sera là, Emmanuel Négrier, pour éclairer et décortiquer les résultats en Occitanie et dans l'Hérault. Ce qui est sûr, Jean-Pierre, c'est que les grands vainqueurs du premier tour du scrutin sont le binôme Madame Abstention et son cousin Monsieur Indifférence. Bon ben Jean-Pierre, on est ravis, on a un invité avec nous hein, pour commenter donc ces résultats et de façon générale, qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est une double élection, alors Emmanuel merci d'être venu à Divergence d'abord.
Mais je vous en prie, merci
Je sais que vous êtes très pris le lendemain d'élection, même en dehors des élections, mais enfin les lendemains d'élection en général c'est difficile de vous avoir parmi nous. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu les régionales, les départementales en même temps, et Jean-Pierre pourrait peut-être poser cette première question.
Oui, alors moi, une question que peu de gens ont évoquée jusqu'à maintenant, est-ce qu'on remarque une conjonction de comportement électoral entre les élections départementales et les élections régionales?
Alors, deux réponses à cette question. La première, c'est qu'en termes de densité de participation, il y a une assez grande convergence, c'est-à-dire que vous l'avez observé vous-même.
Dans les bureaux de vote,
peu de gens ont
évité
sciemment l'une des deux élections. Ouais. Et donc voilà, identité de comportement électoral au sens des participants.
D'accord.
Et des abstentionnistes, d'ailleurs, beaucoup plus nombreux.
Oui, c'est ce que je disais en introduction, un petit peu avant que vous arriviez, que les grands vainqueurs, ça semble le binôme Madame Abstention et Monsieur Indifférence, ce qui est quand même terrible à dire.
C'est joliment dit, et vous savez que c'est un couple un petit peu orageux.
Oui.
Parce que Madame Abstention supporte mal l'attitude de Monsieur Indifférence. Et que l'abstentionniste s'en veut.
Ouais.
Il faut aussi le savoir, ça, ouais. Parce qu'on a tendance à considérer, oui, les abstentionnistes, finalement, les gens sont des enfants gâtés de la démocratie, ils ne s'intéressent plus au vote, etc. C'est inexact, c'est tout à fait inexact. Le comportement électoral reste d'abord le premier comportement d'expression des opinions de très loin en France. Et deuxièmement, les gens, quand on leur dit « vous n'avez pas voté », considèrent le fait de ne pas avoir voté comme un problème.
Ils sont un peu culpabilisés quelque part. Hein. Ils disent, j'y suis pas allé, mais bon, je ne suis pas très fier de moi.
Voilà, tout à fait. Et je pense que pour beaucoup de gens, alors il y a un certain nombre d'abstentionnistes convaincus, militants même.
Ah ben il y en a, ils vont pas y aller.
Mais en dehors de ça, une très grande majorité des abstentionnistes sont des abstentionnistes qui y voient un problème. Mmh. Et c'est heureux, d'un point de vue démocratique, je dirais. Mmh.
Qu'est-ce qui s'est passé quand même? C'est énorme. Hein,
voilà. Donc j'en étais à la convergence entre abstentionnistes et participationnistes pour les élections régionales d'un côté et départementales de l'autre. En revanche, il y a une différence très nette de comportement électoral au sens de l'orientation des votants. Il se trouve que des candidats aux élections départementales d'une orientation, je dirais, de droite recueillent des suffrages absolument considérables. Et dans le même canton, si on regarde maintenant l'élection régionale, Carole Delga caracole en tête.
Oui, c'est quand même assez...
C'est le cas de pas mal de cantons lozériens.
Oui, par exemple, Carole Delga fait un malheur, si j'ose dire, en Lozère. Hein.
C'est, oui, c'est le malheur de la droite en particulier.
Oui, mais c'est quand même assez étonnant. Quand on connaît bien la Lozère, on est un peu surpris donc, à quel point...
Alors c'est une évolution sociologique de la Lozère. C'est sans doute aussi une évolution idéologique de la gauche et sa capacité à traiter la question territoriale. Je vous fais observer quand même que sur l'ensemble de l'offre politique, ceux qui s'intéressent de près à la question territoriale sont finalement peu nombreux. La République en marche, on peut dire que définitivement, elle a enterré la notion même de question territoriale. Et je dirais, hier soir, Monique Ibarra, qui est une élue La République en marche de Haute-Garonne, a même eu ce mot que personne n'a repris, mais qui m'a, moi, sidéré. Et oui, nous n'avons pas beaucoup d'enracinement territorial. Pour l'instant, ça nous satisfait.
C'est pas ce qu'a
pour
dit...
l'instant, ça nous satisfait.
C'est pas ce qu'a dit notre députée Coralie Dubos, par contre, hein, qui elle a dit, elle a dit, là, je crois que La République en marche doit se remettre un peu en question au vu des résultats.
Oui, bien sûr. Mais ça, c'est, si vous voulez, c'est la ritournelle de l'élection perdue.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui vraiment va accréditer ce changement d'attitude à l'égard de la question territoriale? Je crois qu'on on aura du mal à trouver. Mais c'est le cas. Mais je dirais que La République en marche, c'est un cas. C'est le cas qui gouverne, mais il y en a un autre, c'est la France insoumise, qui est exactement sur la même base. Au fond, de considérer que la politique, c'est d'abord l'oukase présenté par le leader Maximo, et après, finalement, la déclinaison territoriale, les petites nuances, les petits bruits qu'immanquablement un territoire politique fait par rapport à la ligne du parti ou par rapport à la personnalité du leader, tout ça, ça ne l'intéresse pas vraiment. Et finalement, le Rassemblement national est à peu près sur le même modèle. Autrement dit, qui s'intéresse à la question territoriale aujourd'hui?
Eh bien, peut-être en effet que ces candidats qui ont reçu des suffrages de la part de ces électeurs qui, eux, font attention à la question territoriale. Jean-Pierre Foubert,
oui,
peut-être.
On pourrait compléter par rapport au phénomène de participation ou en tout cas de forte abstention au nombre de gens assez considérables qui ont soit exprimé un vote nul, soit éventuellement ce qu'on appelait jadis les blancs ou nuls. J'ai été assez surpris quand même de voir que des gens avaient fait l'effort de se déplacer. C'est-à-dire ils sont pour le vote, mais ils expriment une espèce de défiance par rapport aux candidats qui pouvaient...
Quel qu'ils soient.
Quel qu'ils soient. C'est assez étonnant quand même. Et j'ai l'impression, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts, mais j'ai l'impression que d'élection en élection, on a aussi une augmentation de ces blancs et nuls.
Oui, alors, on a une petite augmentation des blancs et nuls, enfin des blancs, pardon. Les nuls, c'est autre chose. Du vote blanc au premier tour, d'une élection à deux tours, petite augmentation. Et en revanche, on a une grosse augmentation de ce même vote au deuxième tour, quand il y en a un. Parce que quand ce deuxième tour ne satisfait pas les courants qui sont éliminés, eh bien, ceux qui ont par... obligation personnelle, morale, etc., l'habitude d'aller voter quand même, se sentent peu représentés, trahis par ce qui reste de la compétition électorale. Autrement dit, il peut y avoir ce phénomène-là. Par ailleurs, on met beaucoup l'accent en ce moment sur les abstentionnistes, je dirais, contre-intuitifs, c'est-à-dire les abstentionnistes qui ont toutes les propriétés sociales et éducatives pour être des participationnistes de toutes les élections. D'accord. Les super diplômés, les super dotés, etc. Enfin, ça, c'est un mouvement qui est forcément marginal. Forcément marginal, il existe, il est donc préoccupant en tant que tel, mais il est marginal.
D'accord. Et question complémentaire, qui sont les grands perdants et bien sûr les grands gagnants de cette élection? Parce que c'est quand même assez caractéristique, je ne vais pas réinsister sur le loupé des sondeurs précédents, puisque finalement, la semaine dernière, on donnait Carole Delga en seconde position derrière le candidat Garraud, du Rassemblement national, et en fait, elle le devance de 17 points, ce qui est quand même assez étonnant.
À la marge d'erreur est importante.
Ouais. Vous expliquez ça comment? Mauvais échantillon ou...
L'échantillonnage territorial est quelque chose d'intrinsèquement très difficile. Ouais. Plus vous prétendez représenter un espace limité, plus les multiples nuances du territoire que vous voulez représenter par des indicateurs localisés sont peu fiables. Hein? Ouais. Donc plus la marge d'erreur est importante.
Bien sûr.
Ça, c'est... Et d'autre part, un sondage, même s'il est bien échantillonné, ne mesure que des intentions.
Ouais.
Entre l'intention et le comportement, il y a des tas de choses qui se passent.
Ouais, ouais.
Surtout dans ce type d'élection.
Je suis sûr que vous l'avez tous les deux expérimenté au moins une fois, de ne pas savoir pour qui vous allez voter jusqu'au franchissement de la porte du bureau.
Bon. Oui, tout à fait.
Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Alors ceci dit, comme je le disais, pour faire un peu une blague, faire sourire, finalement, le seul parti qui, immanquablement, est toujours très, très bien vu à sa hauteur, c'est Lutte ouvrière. Le seul parti qui devrait commander des sondages, c'est Lutte ouvrière.
Oui, et on ne se trompe jamais, c'est vrai, à peu de choses près.
Voilà.
Mais
je vous parie quand même qu'il y aura des commandes de sondages et peut-être encore plus de sondages pour les prochaines échéances électorales, en dépit de cette erreur structurelle.
Mais je me souviens, il y a... disons, allez, 50 ans pour aller vite, il y a un bouquin qui avait été écrit par quelqu'un que j'aimais beaucoup, d'ailleurs, qui était Frédéric Bon, et qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « Les sondages peuvent-ils se tromper ?» Et l'image qu'il utilisait était de dire « Si j'ai une soupière, je n'ai besoin que d'une cuillère pour savoir si la soupe est suffisamment salée ou pas. » Et je trouvais que l'image était remarquable en disant « Si effectivement l'échantillon est bien choisi, on devrait pouvoir avoir une idée assez précise du résultat que pourrait avoir une élection, à condition que l'échantillon ne soit pas trop petit, ce qui augmente la marge d'erreur.
Bien entendu.
Mais là, à ce point-là, c'est assez énorme.
Bien entendu.
Et puis, l'abstention a fait aussi que c'est beaucoup plus difficile. Que comment mesurer cette abstention dans les sondages au premier tour? On ne savait pas.
Oui, bien sûr.
Donc après, c'est le château de cartes. Donc là, évidemment, tout peut s'effondrer. Et on l'a vu avec cette élection. J'aimerais bien maintenant, si vous voulez bien, qu'on parle un peu quand même de vraiment cette élection. Alors, on a compris l'abstention. Mais maintenant, les résultats des gens qui ont vraiment voté. Qu'est-ce qui s'est passé quand même dans notre région, l'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée pour commencer, et ensuite sur ces départementales, en quelques mots, Emmanuel?
Bon, en quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est que le grand gagnant, pour reprendre votre question, c'est le territoire. Avant même de parler de tel ou tel courant politique, c'est le territoire. Donc, Louis Alliot dans le Perpignanais, Robert Ménard dans le Biterrois, Julien Sanchez à Beaucaire. Voilà, pour le Rassemblement National et ses affidés. Sophie Pantel à Saint-Étienne-de-Valdonnèse, 83%, excusez du peu.
Oui.
Ses adversaires de droite à Aumont-Aubrac, 81%.
Oui, oui.
Donc, on est là dans des consolidations territoriales considérables, quelle que soit la formation politique.
Voilà. D'accord.
Bon, La République En Marche est évidemment en deuil de ce point de vue-là. Ça, c'est donc la première chose. Alors, pourquoi? Mais parce que, tout simplement, en basse zone électorale, un scrutin intéresse ceux que ça intéresse. Qu'on est donc, pour reprendre le mot de Paul Alliès, dans Mediapart ce matin, on n'est pas très loin d'un suffrage capacitaire. Où vont voter ceux qui ont un intérêt de classe à voter, et ne vont pas voter ceux qui sont pourtant les principaux bénéficiaires des politiques publiques parce qu'ils sont dans des situations de précarité sociale, générationnelle, territoriale.
Et puis on s'est peut-être un peu aussi perdu sur qu'est-ce que ça représentait. Je parle de l'électeur, je ne parle pas de vous évidemment, mais de l'électeur de base. Il s'est dit, mais ils ne savent pas vraiment qu'est-ce que fait la région, qu'est-ce que fait le département. On est, malgré les explications, malgré tout ce que vous voulez bien, l'électeur semble toujours un peu perdu quand on lui dit, mais la région, ça sert à quoi? Comment ça fonctionne? Donc, on se confie plutôt à quelqu'un qu'on connaît.
Oui, alors ça, c'est valable également pour les élections législatives, hein, d'une certaine manière. Ouais. Je pense que, alors, il y a quelque chose qui était très intéressant dans les sondages d'avant les gens qui m'ont fait sourire. Ouais. C'est, je ne sais pas si ça vous a alerté, mais le degré de satisfaction à l'égard du bilan.
Ah oui.
Des régions qui étaient tout à fait considérables, hein, genre en moyenne 66% de satisfaits, avec un taux de notoriété des
présidents,
des présidents sortants très inférieur. Et je pense que sur ces gens qui étaient très satisfaits du bilan de mandat, personne, enfin pas personne, non, ce serait injuste, mais une très large majorité de ces mêmes personnes serait incapable de dire concrètement quelles sont les attributions.
Les attributions de la
de
région.
Tel ou tel niveau.
Est-ce que ça peut expliquer le fait que, par exemple, le Rassemblement national ait insisté sur le problème de la sécurité, alors que ce n'est pas du tout ni la responsabilité des départements, ni la responsabilité de la région?
Bien entendu. Bien entendu.
Ou l'immigration. Alors, l'immigration.
Je ne nie pas, M. Nautal, qu'il y ait des problèmes dans le système décentralisé français, qui prétend faire tout et son contraire en même temps. C'est-à-dire conserver un État jacobin et en même temps régionaliser, étendre les régions et en même temps, pourquoi pas, supprimer les départements, proposer l'intercommunalité, mais la faire augmenter de niveau de telle manière qu'il y ait des centaines de communes rassemblées, ce qui ne ressemble absolument plus à de la proximité. Bref.
Ça me rappelle un livre qui s'appelait « La France ligotée », non ?
« La France ligotée », oui, d'un auteur que j'ai bien connu, en effet. Et dont un des affidés a changé assez nettement de trajectoire politique.
C'est vrai.
D'accord. Absolument.
Oui. Voilà, donc en fait, je ne nie pas qu'il y ait ce problème, mais néanmoins, je ne pense pas que ce soit le problème qui explique l'abstention des gens. Quand on est à la paillade dans le bureau de vote Geneviève Bon, ça n'est pas parce que les gens sont insatisfaits du système régionalisé français qu'ils ne vont pas voter.
Ouais.
Je vous le garantis.
Oui, ouais, c'est sûr. C'est
bon, et les jeunes,
Jean-Pierre
alors,
Foubert.
Et une dernière question, peut-être. L'abstention chez les jeunes qui est monstrueuse.
Tout à fait. Oui.
Oui. Comment vous expliquez le fait que ça touche cette tranche d'âge particulière?
Alors, vous savez, Pierre Bourdieu disait « la jeunesse n'est qu'un mot ». Pour dire que derrière la jeunesse, il y a des considérations sociales différentes. Et je pense qu'un jeune dans le quartier des Aubes a plus de chances d'aller voter qu'un jeune du même âge dans le quartier Heidelberg, Mausson, Montpellier.
Ou Saint-Gély.
Et alors Saint-Gély, oui, voilà, évidemment. Saint-Gély, Saint-Martin. Saint-Gély, Saint-Martin, voilà, etc. Hein, Nîmes 4 versus Uzès, par exemple. Bon. Donc néanmoins, la jeunesse déserte beaucoup plus systématiquement les urnes que les autres générations, ce qui laisse penser qu'effectivement, et ce qui renforce le trait de ce vote capacitaire dont parlait Paul Alliez, c'est qu'effectivement la tendance qui se dessine devant nous est celle d'un électeur plutôt âgé, plutôt bourgeois, vivant dans des quartiers relativement épargnés de toute forme de précarité.
Si on voulait faire du mauvais esprit, en fait, le vote est normalement généralisé à l'ensemble de la population inscrit sur les listes, mais ça se transforme petit à petit, sans qu'on le force, en vote censitaire.
Voilà, vous savez, c'est un vieux bouquin, d'ailleurs, de Daniel Legacy, qui s'appelait « Le sens caché ». Qui justement démontrait ça avec une méthode d'ailleurs très proche de celle de Pierre Bourdieu dont je parlais tout à l'heure. Oui. Alors effectivement, il y a un sens caché, mais c'est même plus un sens d'une certaine manière. C'est effectivement un suffrage capacitaire au sens de ce qu'espérait Guizot en étendant au milieu du 19e siècle le suffrage à plus de gens, mais en sachant très bien que derrière, seuls les sachants ou à peu près seuls les sachants irait voter. On est face à ça. Et c'est pas c'est pas une mince affaire que de devoir gérer cette situation-là.
Et les politiques, tous les politiques qu'on reçoit régulièrement, comme vous savez, sur nos ondes, disent toujours la même chose. Il faut convaincre la jeunesse d'aller voter. Il faut, mais...
Le font-ils ?
Le font-ils ? Oui. Est-ce qu'ils se donnent les moyens que notre but, c'est d'attirer la jeunesse, les étudiants. On parlait des étudiants, vous qui connaissez bien les étudiants. Les étudiants qui vont de moins en moins voter, qui sont... C'est aussi quand même étrange.
Et oui, l'abstention, ça pose un problème apparent qui est celui des abstentionnistes qui manifestent un désintérêt à la garde de la politique.
Voilà, c'est ça,
Mais ça pose un autre problème qui est moins apparent, mais qui consiste à savoir si la politique s'intéresse vraiment aux gens.
Exactement. C'est ce qu'on pose cette question. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour aller chercher ces jeunes des banlieues ? On peut penser, il y a fort longtemps, quand il y avait le Parti communiste français, qui était un énorme parti, le premier parti de France, n'ayons pas peur de le dire, et qui allait, avec ses militants, chercher cette jeunesse dans les banlieues, c'était ça, qui l'a remplacée. Alors, pendant un moment, il y a eu le mythe du Rassemblement National qui aurait remplacé, mais je pense que c'est un mythe. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a le tractage, le porte-à-porte, etc. Est-ce que ça fonctionne comme ça le fonctionnait ?
Au Rassemblement National, non, pas du tout.
C'est un mythe. C'est ce qu'on nous fait croire, du moins. Bon, écoutez, on arrive doucement à la fin de cette intervention. On vous remercie encore d'être venu. Et sur Divergence FM, vous êtes toujours le bienvenu, bien entendu. Et puis, Jean-Pierre, nous, on va reprendre un peu notre petite discussion. Vous avez encore un mot à dire, peut-être. Il y a toujours quelque chose à dire, Jean-Pierre Coubert.
Non, c'est toujours. Puisqu'on a cité quelques livres, je trouve que par rapport au dernier point qu'on a évoqué, je pense qu'il y a un livre qu'il faut relire. C'est le livre d'Emmanuel Todd qui s'appelait « Au-delà de la démocratie ». Effectivement, il pose très très bien ce problème. Et lui va même plus loin. Il dit, mais à mon avis, encore une décennie ou deux, et on n'aura même plus besoin d'élections pour continuer à entretenir cette idée de démocratie.
Merci beaucoup.
Merci.
Un lol pan, un lol bye.
Alors Jean-Pierre, d'abord on se félicite d'avoir reçu Emmanuel Négrier, que comme je disais, il court dans tous les studios, dans toutes les rédactions, l'appelle, donc on est content quand même oui. qu'il vienne nous voir à Divergence FM. C'est vrai que c'est pas très loin de ce lieu de travail, hein, puisqu'il travaille.
Oui, mais je crois qu'en plus voilà. il nous aime bien.
Voilà, bon. Voilà.
Il écoute nos émissions régulièrement quand on invite des personnalités politiques.
On est très content. Alors avec vous, Jean-Pierre, j'aimerais bien qu'on revienne un peu. Alors cette fois-ci, on a parlé de l'abstention. On va faire un peu abstraction de cette abstention, mais des résultats des gens qui ont été votés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quand même probablement, je m'avance pas beaucoup, mais probablement une reconduction des gens qui étaient en place. C'est-à-dire, la région reste à Carole Delga et le département à Kléber Mesquida.
Oui, d'autant plus que pour les régionales, effectivement, pour rappeler les chiffres, hein, Carole Delga est à un peu plus de 39%, Garot du Rassemblement National est à 23,5% pour aller vite, et Aurélien Pradier donc est à 12,3%. Ensuite, les autres ne peuvent pas effectivement se représenter, sauf à faire plus de 5%
et fusionner.
Hein,
c'est déjà le cas de les Verts, je crois, hein, qui vont rejoindre.
Alors les Verts, effectivement.
Carole Delga. Hein.
Voilà, les Verts avec Antoine Maurice, donc qui n'a fait que entre guillemets 8,19%.
Rejoint Carole Delga.
Voilà. Hein, d'autant plus qu'une partie des Verts qui étaient dans l'ancienne majorité de Carole Delga sont déjà dans la liste du premier tour avec Carole Delga. Donc il va y avoir à nouveau un rassemblement des Verts. Oui. Et puis, l'autre personnalité, c'est Vincent Terrainoves, qui avait le soutien donc, de LRM, et classé quand même divers droite, et qui fait 8,62%. Donc, va-t-il s'allier avec M. Pradier ou pas?
C'est à voir. D'ailleurs, pour revenir à M. Pradier, c'est quand même... Bon, c'est pas un gros score, mais il est quand même présent. Il a la possibilité de se maintenir à ce deuxième tour. Donc, c'est quand même... pas négligeable. Et puis, c'est sûr que ça doit faire plaisir au maire de la Grande Motte.
Alors, très probablement, effectivement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est son positionnement qui ressemble d'ailleurs assez fortement à ce qui s'est passé, par exemple, en PACA avec M. Muselier, c'est-à-dire une position très ferme, notamment par rapport au Rassemblement National.
C'est ce que nous avait dit donc, quand on avait reçu le maire de la Grande Motte, qui nous avait vraiment insisté sur le fait que eux, ils étaient des républicains, mais des républicains qui s'étaient en opposition avec le Rassemblement National et qui n'avaient pas de compromis possible. Donc, pouvoir se maintenir au deuxième tour, ça va faire une triangulaire.
Ça va faire une triangulaire, effectivement.
Et ça favorise à nouveau Carole Delga, je pense.
Ouais. Hein? Alors, c'est ce qui sera intéressant dimanche prochain, c'est de regarder, savoir si, d'abord, il y a une mobilisation supérieure à celle à laquelle on a assisté cette fois-ci. Et deuxièmement, est-ce que, comment M. Pradier va bénéficier de ce second tour, ou bien est-ce qu'il va perdre une partie de son électorat avec un phénomène de percolation vis-à-vis du candidat, donc Jean-Paul Garot, du Rassemblement National. Il n'est pas impossible qu'il perde des voix et qu'une partie de son électorat rejoigne anti-Delga
primaire.
Voilà. Voilà. Donc c'est effectivement un phénomène qui risque de se passer. Par contre, comme le disait fort bien notre ami Emmanuel Négrier, c'est ce qui est assez intéressant, c'est le score donc, que fait Lutte Ouvrière qui fait 1,8% et comme il disait, le seul parti qui est testable, pas besoin de sondage, c'est celui-là, effectivement.
On va dire Carole Delga loin devant, comme disait le Midi Libre,
oui,
Garot à la peine et Pradier qualifié. Voilà ce que titrait dans le cépage régional le Midi Libre de ce matin. Alors on revient maintenant au départemental. Alors les départementales, c'est la particularité de ces binômes qui ont été mis en place depuis quelque temps, parité homme-femme, hein, très important. Et puis, moi je dirais, j'ai le sentiment quand même qu'il y a un vainqueur qui ne se présentait pas aux élections, c'est Michael Delafosse.
Alors, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, il avait adoubé, si je peux dire, cinq binômes sur la ville de Montpellier. Et manifestement, ces cinq binômes sont largement en tête dans les cinq cantons. Le seul qui avait troublé le jeu de Philippe Sorel la dernière fois, c'était justement Michael Delafosse qui avait réussi à gagner
un canton
contre les candidats
du maire de Montpellier de l'époque.
Du maire de Montpellier de l'époque. Là, apparemment, il y a une espèce de dynamique qui s'est créée. Hein. Est-ce qu'elle est liée au municipal de l'an dernier ou pas? En tout cas, c'est assez caractéristique de voir que, alors qu'on annonçait une espèce de d'érosion définitive du PS ou de la gauche en général.
La gauche traditionnelle, voilà. On peut dire, les mouvements de radicaux de gauche, le Parti socialiste et leurs alliés habituels.
Ouais, ouais. Et donc, c'est vrai qu'à Montpellier, ils risquent de faire le grand chelem. Et donc, quand on voit les résultats, bon, c'est vrai qu'il peut y avoir un
sursaut. Ah, faut faire attention. Une élection n'est jamais, je vous l'avais dit tout à l'heure, Jean-Pierre, une élection n'est jamais jouée avant qu'elle soit effectivement la clôture du bureau de vote.
Hein. Oui, absolument. Absolument. Mais quand on voit des cantons, y compris dans la métropole d'ailleurs, hein, pas uniquement sur Montpellier, on s'aperçoit que quelquefois on a pu avoir des alliances, quelquefois même gauche-droite, paradoxalement, et qui donnent des résultats. C'est pour ça que je trouve que le positionnement de Kléber Mesquida, hein, qui lui-même était annoncé comme en difficulté, etc. Alors que,
il a failli être élu au premier tour.
Voilà, exactement.
C'est à cause de cette loi qui fait qu'il fallait 25% des inscrits pour pouvoir être élu au premier tour avec plus de 50% des voix, qu'il n'est pas élu.
Voilà. Mais c'est vrai que quand on voit les phénomènes des alliances qui ont pu se faire, et notamment par rapport à Montpellier, le fait qu'il y ait eu conjonction avec l'appui de Michael Delafosse, plus l'appui de Kléber Mesquida pour les départementales, plus l'appui indirect de Carole Delga, a fait qu'effectivement il y a eu une mobilisation de l'électorat de gauche, hein,
et puis
pour aller vite.
Et moi, j'ai aussi dans ces départementales, vous avez remarqué, Jean-Pierre, il y a beaucoup de maires qui étaient présents sur certaines listes.
Oui.
Alors, on peut penser par exemple au maire de Jacou, hein, Renaud Calvin, qui est déjà vice-président de la métropole, premier vice-président de la métropole, qui est aussi au département depuis longtemps. Là, pour ces départementales, il fait un malheur en ayant changé de colistière.
Oui, puisque absolument.
Maintenant, c'est une verte qui l'a rejoint, de l'Europe Écologie des Verts, en colistier. Eh bien, on pourrait croire que son électorat allait peut-être bouder un petit peu. Eh bien, pas du tout.
Ah, bon,
il fait des scores, des fois même assez impressionnants. Il arrive à des scores quand même impressionnants. Je prends ce cas-là, mais ça peut être d'autres. Hein, donc, il y a les maires qui sont présentés au départemental, souvent font des très bons scores, ce qui prouve bien que c'est une élection quand même très locale, les départementales.
Oui.
Ça se joue là, ça se joue avec la proximité, on peut dire.
Tout à fait. Et c'est vrai que le cas de Renaud Calvin est intéressant, puisque je crois qu'il explose les scores sur sa commune, par exemple.
Ah oui, ben là, n'en parlons pas.
Donc élu au premier tour.
76%, je crois, de mémoire.
Oui, c'est ça. Donc, effectivement, on sent des ancrages. Finalement, quand on regarde la situation, on pourrait dire, c'est pas tout à fait vrai, mais on pourrait dire que la droite républicaine quasiment n'existe plus. Hein, ou très peu, très mal.
Sauf peut-être justement des maires bien ancrés qui font des bons scores dans leur fief.
Absolument. Les autres, c'est si on prenait le cas du Rassemblement national ou du mouvement créé par M. Ménard, etc., mis à part les trois cantons de Béziers, le suspense sur le canton de Moguio et de Lunel.
C'est très intéressant à suivre la semaine prochaine,
hein,
Moguio et Lunel. Hein.
Mais mis à part des cas comme cela, quand je vois par exemple sur le canton de Sète, j'ai plus les chiffres exactement, mais quand on regarde le canton de Sète, on s'aperçoit que ce sont le binôme communiste avec Gabriel Blasco et Véronique Calueba qui arrivent devant le candidat d'hiver droite. pas de beaucoup, mais 3%,
oui, 32 mais quand même, contre quand 29. Même, quand même.
Absolument, ça veut dire que l'hypothèse que j'émettais il y a deux ans en disant qu'à un moment donné, les gens ont besoin de points de repère et que ces points de repère, effectivement...
Ce sont les partis.
Et donc, on s'aperçoit qu'effectivement, quand les gens se sont déplacés, pas beaucoup à mon goût, mais quand ils se sont déplacés, ben, ils essaient de retrouver, disons, des bases plus partisanes que le flou artistique qui avait été créé par l'élection de Emmanuel Macron.
Et peut-être, alors tout ça, Jean-Pierre, on va conclure là-dessus, on va passer. Les gens qui veulent vraiment savoir les résultats, il suffit qu'ils se regardent dans un quotidien régional bien connu, hein, le Midi Libre, où il y a tous les résultats, canton par canton, ville par ville, village par village. Donc vous savez tout ce qui s'est passé. Mais j'aimerais juste une projection. Est-ce que ce type d'élection peut avoir une influence sur la présidentielle qui nous attend ?
Alors, Emmanuel Négrier expliquait vraiment le problème du territoire. Mmh. Et j'ai l'impression que le fait que les gens puissent éventuellement rencontrer, côtoyer le candidat fait que les municipales voire les législatives créer ce genre
de rapport de proximité quelque part.
Exactement.
On connaît l'élu, on le connaît.
C'est vrai que est-ce que le fait d'avoir relié les deux élections départementale et régionale. Ouais. Est-ce que ça permet d'expliquer effectivement le fait que les gens ne connaissent pas les prérogatives de telle ou telle institution, etc.
Ce qu'on disait tout à l'heure.
Expliquer une partie de l'abstention. Et puis...
Mais ça n'a rien à voir avec les présidentielles.
Non, ça
n'empêchera pas la présidentielle qu'on vote. Alors là, la présidentielle, c'est l'élection suprême, n'est-ce pas, de notre démocratie à nous. On peut se poser la question de... D'ailleurs, la présidentielle, ça n'entraîne pas un déni de démocratie parfois. Mais enfin bon, c'est une autre histoire.
Moi la chose que je voudrais dire sur les présidentielles, c'est que si on se base sur les résultats faits un peu partout en France, il n'est pas du tout évident que Emmanuel Macron puisse être au second tour.
Ah ben pas du tout, si on regarde ses résultats, non là, voilà. Pas du tout.
Par contre, mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'attache territoriale ou d'implantation localisée pour La République En Marche, le flou artistique des gens de gauche qui sont venus rejoindre Emmanuel Macron, des gens de droite qui ont fait ça, le fait que...
Ni gauche ni droite.
Voilà, ni gauche ni droite, le fait qu'il n'y ait pas des candidats partout et qui se réclament de LRM, etc., peut créer effectivement un trouble chez les électeurs. Et si l'année prochaine, on a pour les présidentielles une participation de l'ordre de 50%, je pense qu'un certain nombre de gens risquent d'avoir des problèmes. Et on peut très bien avoir un cas de figure absolument invraisemblable, c'est qu'un Front National qui a ce fameux plafond de verre, et puis une gauche complètement éparpillée, En Marche, pas à la hauteur, et donc une Marine Le Pen qui se retrouverait à l'Élysée avec 20% des voix.
Oui, alors donc c'est donc une autre histoire. On en reparlera évidemment. Absolument. Au moment où on arrivera là, parce que toujours pareil, c'est deux élections, c'est présidentiel, législative.
Absolument.
Et qui n'ont pas grand-chose à voir avec régional, départemental. Oui. C'est ce qu'on essaye de dire. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment, c'est l'image du candidat à la présidentielle. Comme on dit, on vote pour un homme ou une femme, la présidentielle, c'est le piédestal. Oui. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui vient de se passer, donc il faut se méfier de ces résultats.
Oui, mais vous avez vu que généralement, les élections législatives ayant lieu six semaines après les présidentielles, jusqu'à maintenant, il y a généralement un raz-de-marée qui l'annule.
On l'a vu la dernière fois.
Voilà.
Mais la dernière fois, c'était quand même encore plus extraordinaire, puisque ces députés n'avaient jamais fait de la politique, beaucoup, pas tous.
Sauf que l'année prochaine, je ne suis pas Madame Soleil, encore une fois, je le dis assez souvent, mais on peut très bien avoir un président ou une présidente élu à l'Élysée.
Et pas la même majorité.
Et pas de majorité à l'Assemblée nationale.
Ah, alors là, on commencerait déjà par une cohabitation. Mais on en reparlera de tout ça. Bon, en tout cas, j'espère que les auditeurs de Divergence ont apprécié cette petite émission qui met en valeur, on va dire, ce qui se passe au niveau politique dans notre territoire. Comme disait Emmanuel, on est sur notre territoire, là, et on va toujours plus loin. Mais c'était les régionales, les départementales, l'Occitanie, Méditerranée, Pyrénées, et le département de l'Hérault.
Absolument.
Jean-Pierre, dans la semaine prochaine quand même, enfin la
oui,
semaine prochaine.
Oui, mais pas lundi.
Non, lundi, on va éviter parce que ça sera le second tour qui vient juste de se terminer. Donc on essaiera de faire une émission un peu plus tard avec les vainqueurs, on espère qu'ils nous répondront au moins au téléphone, hein, qu'on les ait
absolument
quelques minutes au téléphone.
Et surtout que ce sera notre dernière
Quoi de neuf avant une reprise de la saison de Quoi de neuf au mois de septembre sur la formule plus habituelle avec un invité en studio pendant une heure. Enfin, si tout se passe bien, mes chers auditeurs.
Et tout cela,
Française, Français,
c'est grâce à vous.
Notre route est droite. Mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union Européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
La présidence de la République, ça n'est pas un radio-crochet.
Ça, c'est une autre façon de faire de la politique.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Alors, quoi de neuf, quoi de neuf, quoi de neuf.